La grande matinale avec Eugénie Djeki sur Africa numéro 1.
Alors on continue avec cette saga Iveco Amaïso qui consiste à nous relater le parcours de milliardaires africains. Ils sont quatre également aujourd'hui. On sait qu'ils ont pu être milliardaires grâce à l'État, mais il faut savoir que certains milliardaires africains, bien sûr, ont choisi de contourner ou de neutraliser l'État. Mais n'est-ce pas une mission impossible, Iveco Amaïso?
C'est une mission possible, justement parce qu'ils contournent ou qu'ils réussissent à neutraliser cet État-là. En fait, ces milliardaires dont vous parlez, pas les mêmes dont on a parlé avant, ils ont en fait réussi à lutter contre l'État. Et souvent en bénéficiant au bon moment, parce que c'est très important, du soutien indirect d'autres chefs d'État ou d'autres États. Alors je vais en présenter quatre aujourd'hui. Commençons par l'Égypte. Un certain Onsis Saviris, c'est un copte, en fait, il faut le savoir qu'il y a plusieurs religions là-bas, donc ce n'est pas l'islam, qui a fondé sa richesse sur l'entrepreneuriat, au sens noble du terme, un entrepreneuriat familial des années 50. Ses secteurs de prédilection, c'est le bâtiment, les travaux publics, la construction, les routes, les canaux. N'oubliez pas qu'on était à l'époque de Nasser et il y avait des grands travaux. Mais voilà, en 1961, on a nationalisé sa société. Il s'est réfugié en Libye et il en sort encore plus riche. Alors, il crée une société qu'on appelle Orascom en 76 et se diversifie en intégrant le secteur de la téléphonie mobile et le tourisme. Donc, cette société Orascom réalise plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuellement. Donc, la fortune personnelle de Saviris s'élève à 9 milliards de dollars et c'est ce qu'il fait fructifier ces derniers temps avec trois de ses enfants, ses fils d'ailleurs, qui ont pris la succession. Donc, vous voyez là un exemple typique de quelqu'un qui, au fond, n'a pas eu, disons, besoin de la corruption de l'État pour devenir milliardaire. On va quitter l'Égypte pour aller en Afrique du Sud. Un certain Patrice Motsepe, il est considéré comme le milliardaire de la discrimination positive. Très intéressant. Il est né à Soweto, donc vous voyez, dans les townships noirs de Johannesburg. Ce milliardaire n'est pas un enfant, paradoxalement, des bidonvilles. Il vient de sang royal, donc des grandes royautés africaines, famille aristocrate, un peu comme Mandela. Et cette famille, il a prospéré dans l'Afrique du Sud, notamment au temps de l'apartheid. Il est même allé et a eu ses diplômes dans une université réservée normalement aux Blancs. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe aujourd'hui, quand on croit qu'il y avait un grand apartheid. Quand Nelson Mandela est devenu président, ce Patrice Motsepe, il fait fortune dans quoi? Les mines, l'or, platine, nickel, fer. Mais très vite, il se diversifie. Il grossit par des techniques de partenariat, de rachat, de, comme on dit, merging acquisition en anglais, et profite de la loi qui impose aux compagnies minières d'être tenues au minimum à 26% par des actionnaires noirs. Il dirige alors sa propre société, African Rainbow Minerals, et le riche noir qu'il est devenu, parmi les Blancs, qui sont aussi des milliardaires en Afrique du Sud, a une fortune aujourd'hui estimée à 2,5 milliards de dollars. Donc vous voyez quand même que cet État est toujours là, mais au fond, c'est des gens qui ne sont pas rentrés dans la corruption.
Alors justement, Iveco Amaïso, en fait, s'enrichir sans l'intervention de l'État dépend énormément du secteur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous avez entièrement raison. Ce secteur, c'est souvent les secteurs où il n'y a pas trop de transformation, hein, comme vous avez déjà entendu. Au Ghana, un certain Samuel Esson Jonah, lui, il a fait fortune grâce aux mines d'or. Il a eu un diplôme universitaire en économie à Londres. Et il a travaillé depuis longtemps dans une des anciennes, plus anciennes sociétés minières du Ghana, Ashanti, qui a été fondée en 1897, vous imaginez? Il en devient d'ailleurs le PDG, le président directeur général noir, en 86. Et il a choisi, lui, l'introduction en bourse, l'internalisation. Vous savez, rapidement, il a aussi fait des pertes. Et ce sont ces pertes-là qui l'ont conduit faire des fusions en 2004 avec AngloGold de l'Afrique du Sud. Donc il est resté très africain et il est parti du côté du Sud. Il est devenu membre de la direction de cette structure, mais lui-même se singularise parce qu'il a créé sa propre société, Jonah Capital, un fonds d'investissement en portefeuille, que les Anglais appellent private equity, qui est basé à Johannesburg, encore en Afrique. Il s'est hissé au sommet en évitant les interventions négatives de l'État africain. Mais vous avez vu, voici un vrai entrepreneur qui s'en est sorti sans la corruption. Nous allons quitter l'Afrique du Sud et le Ghana, puisque bon, il était installé dans les deux côtés, et aller au Soudan avec Mo Ibrahim. Il est incontestablement le roi de la téléphonie mobile africain. Il a étudié en Égypte, puis au Royaume-Uni, il a travaillé au British Telecom. C'est là qu'il a appris beaucoup de choses, et c'est un ingénieur de formation de base. Il a fait sa société de conseil en téléphonie mobile, et il devient l'un des plus grands opérateurs dans les années 90, avec Celtel, qu'il a implanté dans 14 pays africains. Il refuse la corruption, c'est ce qui l'exclut pendant longtemps du Nigeria, alors que c'est un marché extraordinaire pour lui, il a refusé d'y aller. Il s'est diversifié après avoir vendu sa société à des investisseurs koweïtiens, encore eux, pour environ 3,5 milliards de dollars. Donc il a eu un paquet d'argent. Personne ne sait ce qu'il paye comme impôt, mais il a choisi de créer sa fondation, qui s'appelle d'ailleurs Mo Ibrahim, et offre à l'Afrique un index de la gouvernance et un prix du même nom, Mo Ibrahim, doté de 5 millions de dollars pour celui qui l'a, plus 5 autres millions qu'il donne pour réaliser des projets de développement. À qui il envoie ça? Mais à des chefs d'État. À une condition, il faut que ces chefs d'État quittent volontairement le pouvoir en assurant une transition démocratique pacifique. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'après l'attribution cette année du prix au Cap-Verdien Pedro Pires, l'ex-président, ce soit vraisemblablement le Zambien Rupia Banda qui n'a pas hésité à féliciter son adversaire qui est devenu président, un certain président Michael Sata, et qui en plus a dit qu'il soutiendrait dans le cadre de cette alternance politique et qui a donné une victoire à une opposition. D'ailleurs, rappelons que Michael Sata, c'était la quatrième fois qu'il se présentait en Zambie, et démocratiquement, avec la vérité des urnes, il a pu obtenir la victoire et son adversaire l'a félicité. Ce qu'on ne trouve pas régulièrement dans les pays francophones.
Et voilà donc la saga de 4 milliardaires africains. Merci Ivekwe Maïso.